le masque et la plume de l'été. Bonsoir à tous, bienvenue en public et quel public au studio. Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un Masque et la Plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les haussiens transgenres de la critique. J'ai nommé Pierre Murat de Télérama, Eric Neuhoff du Figaro, Michel Simon de Positif et Xavier Loerper de 7ème Obsession pour parler ce soir notamment de Lola Pater, mais également d'Une femme douce d'Office, de La tour sombre, d'Une vie violente d'Egon Schiele et de Lumière d'été dans le courrier très éclectique de la semaine. Frédéric Beau s'étonne que personne au masque n'ait émis la moindre critique sur cette fable néo-conservatrice qu'est La planète des singes, qui s'achève sur ce message biblique bien lourdingue qu'est la vision par César de la terre promise et mourant avant de l'atteindre, tel le Moïse de l'Ancien Testament. Il y en a marre des Américains et de leur Bible. Martial Imbeau de Nancy, qui a vu Song to Song, nous écrit avec un casting prestigieux et des plans magnifiques, Terrence Malick vient de commettre une nouvelle fois un somptueux gâchis. Vincent Hanard a trouvé le masque très sévère pour le cinéma de Kusturica, dont le joyeux bordel témoigne de la beauté, du drame de la région des Balkans. On vous laisse les films vietnamiens où vous pourrez vous ébahir d'un bambou déversant son eau pendant 2 heures. On garde le grain de folie douce et tragique, made in Serbie. À propos de Valérian, tiens, Noémie Le Carré qui habite Liverpool en Grande-Bretagne. Contre toute attente, j'ai été agréablement surprise par le long métrage de Luc Besson. Bien sûr, la même philosophie bateau, parfois stupide, se retrouve d'un film à l'autre. Mais si on se laisse en prendre à l'histoire, on est emporté. J'ai même versé, tiens, ça c'est pour Xavier, une petite larme lorsque nos deux jeunes héros se sont enfin retrouvés au banquet défilé de mode. Luc Besson maîtrise le suspense amoureux, même si on connaît la fin dès le début. Tiens, toujours sur Valérian, Patrice Charoulet de Dieppe. L'excellent Eric Neuhoff a cru bon de citer Céline en disant « Les surréalistes sont des crétins qui se prennent pour des fous », ce que tu attribuais à... Donc,
à
propos de Valérian et de Luc Besson, la phrase exacte est, Eric, les surréalistes sont des imbéciles qui essaient de se faire prendre pour des fous, et ça n'est pas de Céline, mais de Claudel, dans son journal de 1937, nous dit Patrice Charoulet. Il est très chic de citer Céline, beaucoup moins Claudel. Je vous prie donc de bien vouloir attribuer cette pensée drôle à son véritable auteur.
Et la tendresse, Claudel.
Non, vous n'applaudissez pas, parce que le problème, c'est que plus vous applaudissez, plus ça lui donne envie de faire ce genre.
Et dire que tu es parti en vacances.
Oui. Donc. Allez, vite, Claude, qui habite Sannois, n'a pas aimé un film dont on n'a pas parlé, quel Dunkerque. Quel Dunkerque de Christopher Nolan. Plutôt que ce long clip guerrier prétentieux avec une BO mauvaise et omniprésente, revoir le superbe film d'Henri Verneuil, Weekend at Zwickaut. Ou encore Pierre Cusor, qui nous dit que Dunkerque n'est pas un film, mais un simulateur de guerre. C'est anonyme, grandiloquent, bruyant, beaucoup trop long, comme la guerre. En plus, il paraît, moi je ne l'ai pas vu, hein, qu'il filme vu du ciel, la ville de Dunkerque, avec des bâtiments construits dans les années 70-80.
Oui, c'est un peu vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Oui.
Quant à Pierre Henrot, il est ressorti de Dunkerque impressionné par le formalisme de ce film de guerre intimiste, souvent muet et vaguement interrogatif sur ce qu'il essaye de nous dire. Du coup, je m'interroge. Et pour finir, c'est Bruno Sivud qui nous remercie. Parfois, mon masque, je t'aime d'amour. Bravo d'avoir conseillé le Caire confidentiel à tes fidèles auditeurs. C'est le meilleur film que j'ai vu depuis 2 ou 3 mois. Et j'ai le bonheur de vous dire, cher Bruno Sivud, que ce film de Tariq Saleh, qu'on a évidemment beaucoup aimé, vient de dépasser les 300 000 entrées. Comme quoi ? Voilà, il y a parfois un mouvement qui se fait en faveur de films qui ne sont pas aussi évidents que Valérian ou que La planète des singes. Allez, Lola Pater, sorti le 9 août, le film de Nadir Moknesh, le réalisateur de Viva l'Algérie, de Delis Paloma, de Goodbye Marocco, et c'est avec Fanny Ardant, dont vous le savez, hein, Pierre, je ne suis pas vraiment un inconditionnel. Là, elle m'a épaté.
Ah.
Là, elle m'a épaté. Le film commence par la mort en France d'une mère d'origine algérienne. Son fils Zino, c'est Toufik Jalab, part aussitôt à la recherche de son père Farid, disparu il y a fort longtemps, et débarque en moto dans une maison du sud de la France, hein, où une femme qui aime les femmes, Lola, c'est Fanny Ardant, dirige un cours de danse orientale. Lola, c'est Farid qui a choisi de changer de sexe. Elle n'ose pas dire à son fils qu'elle est son père, et elle va aller à Paris pour lui apprendre la vérité, une vérité. On peut le comprendre que Zino a du mal, dans un long premier temps, à accepter. Alors, sur le papier, il faut dire la vérité, c'est un scénario impossible. Eh bien, à l'écran, ça devient... Enfin, en tout cas, moi, j'étais très ému grâce à cette Fanny Ardant qui ose tout, y compris de jouer de sa part de masculinité évidente, enfin forte en tout cas. Pierre, tu me regardes avec un œil bizarre.
Ah non, pas du tout, du tout. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. D'abord parce qu'il y a Fanny Ardant que je trouve vraiment formidable.
Toi, tu l'aimes dans tout.
Moi, je l'aime pratiquement dans tout. Pas tout le temps, non, parce que quelquefois...
Même dans le rôle de Rému.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'importe quoi. Non, moi, je la trouve vraiment très, très, très bien parce qu'elle est excentrique. Non, mais elle est toujours très, très bien, Fanny Ardant, quand on lui demande d'être à l'exacte frontière entre le grotesque et le sublime. Voilà. Et là, elle est toujours très, très, très bien et elle hésite tout le temps entre les deux et la voir hésiter. C'est déjà un spectacle en soi. Ce que j'aime vraiment dans le film, c'est l'infinie douceur du film de Nadir Moknesh quand il filme ça. C'est-à-dire que, en fait, il a évité tout ce que l'on voit, et on a raison de le montrer, c'est-à-dire les hésitations d'un jeune homme qui a décidé de changer de sexe. On a vu des documentaires et il faut continuer à en voir. Et là, il montre quelque chose qui s'est passé avant, ça s'est passé il y a 25 ans. Donc, et il ne montre pas quelqu'un qui a pris cette résolution et qui en est malheureuse et gris. Elle est épanouie. Lola est épanouie. Elle vit avec une compagne.
Elle est épanouie avec quand même une sorte de traumatisme.
Oui, mais enfin, on la montre, par exemple, quand on la montre vivant absolument harmonieusement avec une compagne. Cette actrice s'appelle Véronique Dumont, je crois, a deux scènes. Une scène au début et une scène à l'hôpital. Et la scène à l'hôpital, elle est absolument géniale. Donc, voilà, il y a une douceur et une grande tendresse vis-à-vis de tous les personnages. Et en même temps, il en fait une sorte de western, comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont là face à face à Paris. Il lui dit t'es un monstre et elle lui dit je suis quand même ton père. Et il y a comme ça une émotion qui naît et je trouve que c'est un film vraiment touchant et très 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 réussi.
Ou le gardien de l'hôtel qui l'appelle un jour un soir monsieur.
Oui voilà. Et t'as besoin de lunettes, t'es myope. Enfin, voilà, ça part comme ça.
C'est Eric.
C'est un très bon sujet, mais c'est tellement maladroit.
Tout tu est... trouves ça maladroit,
ah,
toi?
Oui, terrible. Je trouve que tout est attendu, tout est mièvre. Déjà, le héros a un chignon. Alors, pour moi, ça commence mal. Là, ça veut dire, attention, va y avoir un truc bizarre.
Attends, je te pose une question très claire. Est-ce que tu as compris dès le début quel était le père?
Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Heureusement, parce que c'est le seul petit suspense. Et je vous trouve un peu vache avec Fanny Ardant, parce que c'est quand même une actrice terriblement féminine. Elle est faite pour la femme d'à côté, pas pour à côté de la femme. Et quand on la voit...
Voilà un jeu de mots qui vient quand de on la voit très loin.
Quand on la voit attifée comme ça, en train de... Elle en fait un petit peu beaucoup. Je trouve, hein, j'ai peut-être tort. Et ce qui m'a déplaît dans le film, c'est que tout ça passe comme une lettre à la poste. Le gamin n'a pas vu son père depuis 25 ans.
Ah bah non, bah il est ouais, pas bon, content quand même.
Il met beaucoup de temps à l'accepter. Hein.
Oh, il est surtout furieux parce qu'elle boit trop. Qu'elle soit devenue une femme, c'est pas gênant. Alors, si elle se saoule devant des copains, ça passe mal. J'ai trouvé psychologiquement le truc assez faible. Et puis, bonjour pour le complexe d'Édipe, parce que si maintenant, il faut coucher avec son père pour résoudre ça, c'est de plus en plus compliqué. Non, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sujet, que le film était trop mièvre, trop gentil. Oui.
Moi, je suis perdu, là. Ne regarde pas.
Mais le complexe d'Édipe, c'est qu'il faut...
Oui. Très mauvais jeu de mots, j'ai décroché.
Là, le malheureux, je ne sais pas ce qu'il va faire. Non, mais c'est mon côté Freud. Sur un transsexuel, je préfère de mille coudées le film chilien Une femme fantastique. Là.
Bon. Mais ce n'est pas le même sujet.
Michel.
Non, mais...
Oui, non, mais c'est pas un grand film, c'est un film qui m'a effectivement beaucoup touché, mais comme beaucoup de films de Nadir Moknesh, je trouve que c'est un cinéaste qui a une certaine cohérence, qui trace son sillon. Le personnage du fils, c'est un accordeur de piano, et on pourrait dire que il va accorder un piano désaccordé, puisque lui et sa mère ou son père, au début, évidemment, il y a une sorte d'antagonisme très fort, et progressivement, de façon assez subtile, il rapproche les deux personnages. Alors moi, ce qui m'a un peu choqué dans certaines critiques dans des grands journaux, c'est le reproche d'avoir confié à Fanny Ardant un rôle de transsexuel en disant ça ne peut être joué que par un transsexuel. Oui, je trouve que c'est pousser le communautarisme, le communautarisme à l'extrême, stupide, parce que ça nie complètement ce qu'est un comédien. Ben oui, un comédien, par définition, c'est un interprète. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être docker pour jouer un docker, on n'a pas besoin
ni forcément être un vrai singe pour jouer dans la planète des singes.
Absolument.
Ni d'être un meurtrier.
Ça, ça a été dit.
Oui, mais vous n'allez pas faire tous les corps de métier.
Ça a été un reproche qui a été fourni sur le film très souvent. Donc je trouve ce film, et je trouve que Fanny Ardant, je ne suis pas d'accord de dire qu'elle est l'incarnation de la féminité. Non, elle a un coup. Bien sûr, c'est une très belle femme qui exprime des émotions.
Il y a aussi un bel homme qui se maille
en elle. Il y a un côté assez viril chez Fanny Ardant, assez autoritaire.
L'épaule est carrée.
On peut la voir même en femme au fouet. Et je trouve que...
Pardon ? Attends.
Alors là, c'est un fantasme.
Il y a ce qui m'a échappé. Qu'est-ce que tu dis ?
Enlève ton latex.
On pourrait imaginer, dans une sorte de personnage, Gustave Moreau, etc., très décadent, où elle aurait un côté très viril. Et je trouve que c'est pas du tout choquant qu'elle joue un transsexuel, même si elle est le comble de la féminité.
Ah ben j'espère qu'elle va écouter ça, parce que ça fera tordre de rire, Fanny.
Xavier ?
Mais elle jouait un peu ça dans Huit Femmes, quand elle draguait ouvertement quand même Catherine Deneuve, qu'elle se jetait sur elle, qu'elle jouait l'homme, entre guillemets.
Ah oui, c'est vrai.
Elle avait ce côté, de toute façon. Mais on est bien d'accord, c'est une comédienne absolument magnifique, et elle est formidable dans le rôle, parce qu'elle l'empoigne, parce qu'elle n'en a pas honte. Elle est exactement comme Lola par rapport à son changement de sexe. Elle aime ce qu'elle est devenue, et Fanny Ardant aime ce qu'elle est en train de jouer, ce personnage. Sa culpabilité vient pas de son changement de sexe, il est naturel, il était désiré, il est heureux, il est joyeux. Il y a cette scène magnifique au cimetière où elle retrouve un membre de sa famille qui est interprété par la formidable Nadia Cassi, et c'est là depuis toujours, donc ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'elle évidemment regrette, c'est cette absence du fils qu'elle a éloigné d'elle.
Et puis d'avoir fait souffrir aussi sa femme.
Et d'avoir fait souffrir, voilà, absolument. Sa culpabilité vient de là, et c'est très juste à ce niveau-là. Et puis avouez quand même que depuis Dark Vador, Je suis ton père, quand il le disait à Luc, je trouve que Je suis ton père, dit par Fanny Ardant, ça a aussi de la gueule en termes cinématographiques. Voilà. Alors après, la limite peut-être du film, c'est effectivement son côté un peu sémiologiste précis, le rejet, le déni de ce qui est devenu le père. On sent que le personnage du film
est un peu écrit. Mais
à chaque fois qu'il y a ce moment-là, il y a une scène derrière qui contrebalance justement ce côté un tout petit peu, j'allais dire, clinique. Il y a cette scène magnifique où elle se met à danser dans un bar de Pigalle, où elle met comme ça elle danse elle-même, elle est prof de danse, et elle se met à animer un anniversaire comme ça spontanément.
Elle est bien pâtée aussi, ce soir-là.
Mais justement, et le personnage est autant là que dans le dialogue, que dans justement le sujet, le transsexuel, le transgenre. Elle est bouleversante. Le film est vraiment réussi à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours un côté farouche, un côté surprenant, un côté je prends les choses à bras le corps, tous les corps, masculin, féminin, aimé, désiré, et je trouve qu'il y a en plus elle le sexualise extrêmement bien, son personnage, et c'est important de dire aussi que les transsexuels, les transgenres sont des gens qui ont une sexualité, et le film là-dessus
est heureuse,
et épanouie, voilà, et gourmande, et joyeuse,
parce que généralement on les montre toujours souffrants, douloureux,
et le film chilien, on était un peu dans le dolorisme, on était un tout petit peu
calmez-vous.
On dit simplement que voilà, c'est ça qui est important dans le film de Nadir Moknesh.
Bon, allez, et le jeune Tufik Jalab est formidable.
Ah, mais ouais, c'est pas, il est beau, il est lumineux,
c'était
il
pas
est
un rôle évident. Lola Pater de Nadir Moknesh, pour lequel certains journaux ont été très d'une violence, je trouve, pour le coup, limite insultante. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ? Non, dans le studio Charles Trenet. Alors, on passe à Une vie violente. On se souvient peut-être des Apaches, qui était l'excellent premier film qui se déroulait déjà en Corse, son île natale, de Thierry de Peretti. Et cette vie violente qui a été présentée à la Semaine de la Critique, si je ne m'abuse, c'est avec Jean-Michel Angeli, Henri-Noël Tabary, Cédric Appietto, un film qui se passe à la fin des années 90. Stéphane, c'est Jean-Michel Angeli, est un enfant de la bourgeoisie bastiaise, étudiant à Sciences Po, à Aix, qui, pour avoir gardé une valise pleine d'armes, a rejoint finalement un mouvement indépendantiste radical dans une Corse, il faut dire, où les factions s'affrontent. Et il a fait le choix donc de la clandestinité. Puis au début du film, Stéphane, qui est menacé de mort, décide, malgré le danger, de retourner en Corse pour assister à l'enterrement de son ami d'enfance qui a été assassiné. Alors si je vous dis que Thierry de Peretti s'est inspiré du parcours vrai de Nicolas Montini, membre d'Armata Corsa, mêlé à deux attentats nationalistes, qui a été tué à Bastia en 2001, il avait 28 ans. Vous avez un peu le sentiment de connaître l'issue de ce film. En tout cas, je peux vous dire que moi, j'ai pensé parfois, en voyant cette vie violente, à ce qu'il y a de meilleur parfois dans le cinéma de Jacques Audiard.
C'est ça. Ah bon, non, mais ouais, j'ai pensé à un prophète.
Et franchement, ouais. Le premier était bien. Là, je trouve qu'on a, dès le deuxième film, je dis pas le second exprès, le sentiment qu'on a vraiment un réalisateur très fort, n'est-ce pas, Xavier?
Ah, je suis entièrement d'accord. Il y a une graduation indéniable. Les Apaches, moi, j'avais des réserves nombreuses. Je trouvais qu'il y avait un univers, une patte, un réalisateur indéniablement derrière la caméra. Et là, je suis stupéfait, et heureusement stupéfait, par la graduation avec une vie violente. Cyril Peretti se hisse immédiatement parmi les plus grands. On pense à Jacques Audiard et au prophète, bien évidemment, parce que c'est l'histoire d'un épanouissement dans le mal, ou en tout cas
dans même dans les plans, dans la manière.
Dans les plans, absolument. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il y a une vraie fibre littéraire dans ce film, ce qui n'exclut pas du tout la mise en scène, bien au contraire. C'est une vraie tragédie, c'est-à-dire que c'est construit comme une tragédie, c'est-à-dire que quand les personnages se regroupent et décident des actions, de la trahison, de ce qu'ils vont faire, c'est exactement comme une tragédie shakespearienne, chacun a son point de vue, chacun l'affirme, ce qui évite le dogmatisme, le didactisme des dialogues, chacun a sa façon de parler, chacun...
D'ailleurs, on comprend pas tout.
On comprend pas tout, on est bien d'accord. Mais il y a cette façon aussi, à travers le mot, à travers le verbe, à travers la discussion, d'expliquer ce qui se passe. Et ce qui est formidable, c'est qu'il cherche avant tout à nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut basculer, comment cette justement graduation vers la violence, vers le racket, vers la malversation peut exister. Je trouve le film remarquablement mis en scène, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces îlots de dialogue, il y a à l'intérieur un découpage qui isole des personnages, qui montre des visages et qui donne toute la complexité, c'est-à-dire qu'il y a un effet de groupe obligatoirement, il y a un sacrifice de l'intime, il y a un sacrifice de l'idéologie, il y a cet effet de cascade, effectivement chacun est en train de se galvaniser mutuellement jusqu'à la violence, et le film se termine, on peut le dire parce que c'est pas tout à fait la fin, par ce cœur antique de femme réunie à une table qui est absolument bouleversant et qui parachève
qui est presque l'image de la Corse,
qui est complètement l'image de la Corse et qui parachève cette dimension justement théâtrale, shakespearienne et même théâtre antique, où elle raconte justement la Corse, la perte des fils, la perte des frères, la perte des maris. C'est absolument bouleversant et encore une fois c'est remarquablement mis en scène.
Michel Cimenti, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je pense d'abord, ce qui est troublant, c'est que c'est le titre d'un roman de Pasolini, Une vie violente, et je trouve que peut-être la clé, bon, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur Jacques Audiard, mais la clé, c'est la sécheresse du style de Pasolini. C'est un film très, il n'y a aucune graisse, et on l'a rapproché de Palma, de Scorsese, de Coppola. Pour moi, pas du tout. C'est presque l'antithèse des films opératiques, justement, que les Italiens d'Amérique font avec le gangstérisme. Là, il n'y a aucune exaltation, finalement, du gangstérisme. Et d'autre part, c'est vrai que c'est pas d'une très grande clarté. Il y a ces magnifiques plans séquences où des gens discutent, des discussions acharnées, des pourparlers, des intimidations, etc. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais ça reflète aussi la confusion mentale et politique de tous ces jeunes gens. Parce que c'est le moment où le banditisme est en train de s'infiltrer dans le mouvement corse. Alors, le film n'est pas le grand film politique qu'on attend toujours sur la Corse, qu'on n'a jamais fait à La Rosie, à la Salvatore Giuliano. Si, il y en a eu un pour la télévision par l'auteur de l'exercice de l'État.
Bachelaire,
qui était remarquable, mais malheureusement, les films de télévision sont un peu oubliés. Il n'y a pas une vraie interrogation sur le rôle du pouvoir politique, sur le ministère de l'Intérieur. On n'a jamais eu ce film-là qu'on attend avec impatience. Mais les gens seraient sans doute menacés de mort. Mais du point de vue de la destinée d'un personnage, donc c'est un film très remarquable.
Pierre Muratti.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est une fresque politique tout de même. Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est pas rien à voir avec Scorsese, rien à voir avec De Palma, mais c'est une fresque politique. C'est très rare en France de prendre avec cette ampleur, c'est-à-dire prendre un personnage, le montrer qui tombe un peu par hasard dans un mouvement politique et le suivre jusqu'à son destin fatal. Et ce qui est très très fort, je trouve, c'est que bien sûr, il y a des, j'ai peut-être pas tout compris moi-même, mais ce qu'il réussit à rendre, c'est justement rendre presque clair l'obscurité des liens qui pouvaient lier ces jeunes gens engagés, mais avec la mafia. On voit peu à peu la mafia qui prend possession de ces jeunes gens idéalistes. On voit l'État français qui s'en mêle. C'est dit quand même. Alors, c'est peut-être pas aussi
l'État français,
que du
français. L'État.
L'État. Oui, oui, l'État. Oui, oui. Le gouvernement.
Non, mais j'essaie de faire un peu d'humour, mais ça marche pas du tout.
Ce que je veux dire, c'est que
vous appelez tous avec un i, ça marche pas.
Non, mais parce que Michel disait qu'en effet, il attend le film sur la Corse. C'est quand même.
Mais il se fera jamais ce film.
Non, d'accord. Mais justement, comme il se fera jamais, il se trouve que Peretti vient de l'engager assez bien. Et puis alors la mise en scène, en effet, la scène du cœur antique des femmes est absolument magnifique. Et puis sans trahir la fin, mais il y a le travelling final où le héros se perd dans la ville. Où il revient, qui dure plusieurs minutes et qui est une splendeur.
Ricci.
Je suis un petit peu moins enthousiaste que vous parce que c'est très intéressant, mais on ne comprend pas grand-chose.
On ne comprend pas grand-chose, ça je l'ai dit.
Mais dans tous les sens du terme.
Mais ce n'est pas le but.
Il parle tout le temps, il ne joue pas très bien, il y a beaucoup d'acteurs amateurs.
Oh là là, il y a beaucoup de Corses qui jouent dedans.
Oui, mais. À de rares exceptions près, alors. Mais.
Je rappelle l'adresse d'Éric.
Et l'acteur principal est très bien.
Oui, très très bien.
Oh, bah,
très
formidable.
Bien. Michelangeli,
oui.
Remarquable.
Je l'ai revu, remarquable. Je change d'avis. Non, mais c'est le problème, comme dans Rodin, il y a un problème avec les ingénieurs du son dans beaucoup de films français.
Ah non, Rodin, c'était inaudible.
Ah oui, mais là, c'est très confus quand même. En plus, il parle.
Non, c'est du Corse.
Bah, c'est des Corses, t'as l'air de dire, on va les excuser, faut pas les brusquer. Et ce qui est assez bien, c'est que c'est... C'est le retour du film politique qu'on attend depuis des années et des années, parce que moi je fais partie des gens qui regrettent des Yves Boisset. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces...
Revoyez
l'attentat, revoyez RAS, mais s'il y aurait des films comme ça aujourd'hui, on serait en extase.
Non,
et là, il y a une tentative assez courageuse, parce que ça se passe en Corse, comme tu le dis. On comprend pas très bien le temps qui passe, la construction. Il y a la très belle scène avec les maires qui discutent autour de cette table, qui ne jouent pas très bien non plus. Il y a un petit défaut, c'est surécrit. Mais il faut aller le voir, tout en sachant que c'est pas le chef-d'œuvre. Et peut-être que moi, je fais partie aussi des gens qui regrettent qu'il n'y ait pas le côté Scorsese dans La Boîte de Nuit, dans Le Mariage, que ce soit un film assez sobre et assez sec comme un...
C'est autre chose.
Oui, c'est autre chose.
Une vie violente, c'est Thierry de Peretti. Des réactions sur ce film, oui.
Bonsoir. Donc, je vais en rajouter une couche dans l'éloge. C'est le film français de l'été pour moi. Alors, certes,
Français de l'été.
Oui, enfin, c'est un grand film, oui, vraiment. Alors, première chose, Audiard a été cité pour un prophète. C'est quand même dans les démarches scénaristiques le contraire du prophète, parce que il y avait le héros d'un prophète partait très bas et finissait au sommet d'un clan mafieux. Alors lui, c'est une chute en enfer permanente. Ce qui est fantastique dans ce film, c'est que dès le premier plan de Peretti prend une note, et il la tient du début jusqu'à la fin du film. On se demande s'il arrivera à la tenir. Il y a cette sécheresse, cet elliptisme, cet aspect elliptique dans les situations, et en même temps, cette ellipse permanente, ça en fait aussi un grand film politique, parce que ça lui permet de dire beaucoup de choses, notamment sur le mouvement Armata Corsa, dans lequel il explique que c'est un mouvement en fait néo-marxiste, qu'à ce moment-là, il s'expose face au schisme FLNC et FLNC Canal Historique, et la montée de la mafia et du banditisme dans ces mouvements-là. Quant au rôle de l'État français, il est explicitement montré dans une scène qui se passe dans une boîte de nuit, et là, pour le coup, ça rejoint, bon, c'est marrant, il n'a peut-être pas été cité Coppola dans Le Parrain, etc. On voit le rôle là de l'État français où toute l'élite est parfaitement consciente de ce qui se passe et que c'est un jeu de trahison à boîtes multiples. Et je trouve que c'est aussi un grand film politique, quoi.
Merci pour votre intervention. Pas d'autres sur ce film. Office, une comédie musicale en 3D du prolifique hongkongais Johnny To. Ça se passe à Hong Kong en 2008, alors que la crise boursière a débuté aux États-Unis. Lik Xiong, c'est un jeune homme et Kat Ho qui viennent d'être embauchés dans une multinationale sur le point d'entrer en bourse et de racheter une boîte américaine de cosmétiques, découvrent le monde évidemment fou. On va sortir quelques pléonasmes de la finance et les promesses. Alors là, en l'occurrence, faites par le président de la compagnie à son ex-maîtresse de devenir l'actionnaire majoritaire. Jusqu'à l'arrivée d'un audit financier, la musique, c'est un sirop pour moi absolument inaudible. C'est ta passion pour Hong Kong, Xavier, qui t'a fait aimer ça.
Peut-être parce qu'effectivement, avant d'être un film contre le capitalisme, c'est aussi un film d'amour pour la ville de Hong Kong, indéniablement. Que Johnny
T'as
To...
supporté cette musique-là,
que
toi.
Johnny To...
Mais on ne sort pas d'un Mais oui, on ne le voit pas.
On ne voit pas Hong Kong, c'est tout est dans
Alors,
un...
Alors d'abord, c'est complètement faux, on l'entend constamment,
oui,
tous les lieux.
Ah,
non, pas... non mais, attendez, Johnny To, il a filmé d'Hong Kong, il le connaît parfaitement, il en connaît chaque millimètre, chaque horizontalité, chaque verticalité. Pour une fois, il le reconstitue dans un studio, parce qu'il faut raconter qu'effectivement, c'est comme une scène de théâtre. C'est-à-dire, tous les décors cohabitent les uns les autres. C'est un peu comme Mandalay de Lars von Trier, c'est-à-dire qu'on a toujours la perspective d'un autre décor derrière. Donc, c'est ce rapport très abstrait et en même temps très figuratif et très précis à Hong Kong. La carte Octopus, dont il parle à un moment, qui est effectivement une carte de paiement qu'on peut trouver dans l'archipel, les bruits du métro quand il se ferme, les bruits même du... On les entend. Il y a une petite sonnerie particulière pour les feux rouges et les feux verts à Hong Kong. Donc déjà, il le reconstitue de cette manière comme ça, frénétique, tout est en même temps sur le plateau, c'est-à-dire la rue, le café, la sortie de métro, le centre commercial. Donc je trouve que déjà, il y a une idée, il y a une frénésie comme ça d'une ville repliée sur elle-même. Et c'est vrai que Hong Kong est condamnée à l'élévation verticale, puisque pour l'instant, de toute façon, même avec l'adhésion de la Chine, elle ne grandit pas, donc elle reste. Donc cette espèce de vie comme ça,
insistante... Tu parles pas de la musique ?
Alors, la musique, moi, j'ai fini par m'y faire, et je trouve qu'il y a deux, trois très jolis moments. Il y a un duo à un moment que je trouve absolument magnifique sur, justement, les expatriés. Je ne sais pas, je ne vais pas à l'Intermarché. Je suis ravi de savoir que tu y vas.
Mais. Merci, Fauchon.
Moi, ça m'a pas dérangé parce que, voilà, il a tellement tourné au sens, je veux dire, réaliste Hong Kong, que pour une fois qu'il s'offre une abstraction poétique, oniriste, en 3D, musicale, totalement folle, d'abord, ça m'a plu. Je trouve que l'idée, la proposition sont assez intéressantes. Et après, en termes de mise en scène, ce qu'il arrive à faire de ce décor multiple, et ce décor comme ça, en boîte repliée sur elle-même et qui se déploie constamment pour reconstituer un univers, je suis désolé, si on aime le cinéma, on aime un peu la mise en scène, enfin, j'espère, en tout cas. Et ça m'a, mais réjoui, ça me tient. Alors, j'ai des réserves. Les personnages sont un peu archétypaux et un peu distribués de façon basique quand même sur l'échiquier de les méchants, les gentils, ceux qui sont à voir, ceux qui arnaquent. Mais pour autant, c'est une proposition insolite et en même temps que je trouve constamment intéressante. Le film est pas 100% convaincant.
C'est bon. Ta défense illustration, tu as eu ton temps de parole, Michel.
Non, je m'étonne qu'un cinéphile, et je dis ça avec sérieux, un cinéphile aguerri comme toi, qui connaît le cinéma, qui a vu les comédies musicales américaines des années 50, parce que c'est un hommage aux comédies musicales américaines des années 50, puisse un seul instant considérer que c'est une comédie musicale réussie. Je veux dire, toi, comédie. Alors, la mise en scène, c'est un concept purement français, qui consiste à dire, peu importe que les acteurs soient mauvais, peu importe que les lyriques soient désastreux, mais il y a la mise en scène. Alors, Johnny To, j'aime beaucoup Johnny To, il a des plans-séquences absolument réglés, mais quand c'est des plans-séquences magnifiquement réglés qui reposent sur du vide, parce qu'il ne filme rien d'intéressant, quand on pense, par exemple, à Pique-nique en pyjama, de Stanley Donen dans les années 50, qui se passait entièrement dans une usine de pyjama, avec l'humour, la chorégraphie de Michael Kidd, des grands chorégraphes, ou Bob Fosse, c'était prodigieux. Il y avait une invention, il y avait un humour, il y avait en plus une racine sociale merveilleusement aiguë. Et là, on a affaire vraiment à un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, une fois que les décors, oui, c'est le décorateur de Wong Kar-wai. Alors, c'est vrai que ces panneaux coulissants, ces murs de verre, tout ça est très élégant et très beau. Mais ça repose sur rien. Il n'y a rien dans ce film, mais rien. C'est-à-dire, du point de vue de la comédie musicale, c'est tout de même des chansons désastreuses, de la chorégraphie qui n'est pas réglée, et voilà, et du décor, et effectivement un homme agile avec sa caméra.
Éric ?
C'est un vrai navet, c'est ça qui est réjouissant. On voit pas ça tous les jours. Là. Si vous voulez...
Et puis deux heures.
C'est un mélange de Luc Besson et des mauvais Jacques Demy. Je dis pas de mauvais
Luc
Besson.
Il n'y a pas de mauvais Jacques Demy, à part Parking.
Il y a de très mauvais Jacques Demy.
Ah oui, il y a de très mauvais Jacques Demy. La musique est désolante.
Moi, j'en ai jamais vu.
Les acteurs dansent comme des patates, on a l'impression de revoir la 5 de Berlusconi à l'époque. Là. C'est d'un kitsch qui n'est sûrement pas volontaire.
Il y avait un monde à lire sur la 5 de Berlusconi, donc ne dis pas de mal de la 5 de Berlusconi.
Mais je ne dis pas de mal, mais je la regrette dans le film. Parce que vous êtes là, Johnny To. N'oubliez pas que c'est quand même le monsieur qui a fait un remake du Samouraï avec Johnny Hallyday en veste de cuir. C'était quand même gratinares, ça aussi. Je crois que c'est un cinéaste culte.
C'était mieux que ça, en tout cas.
Ah oui, non, mais ça, c'est hallucinant. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'au bout d'une heure, je ne sais pas ce qui s'est passé à la projection, les bobines n'avaient plus de sous-titres.
Ah bon?
Et c'était beaucoup mieux comme ça. J'attendais que le son soit coupé. Hélas, ça n'est pas arrivé, mais il faut le voir un dimanche soir quand ça sortira en DVD.
C'est pas indispensable non plus.
Non, non plus, ouais.
Pierrot.
Xavier, je suis totalement d'accord avec toi. C'est très bien, ce film. Mais absolument. Sauf la musique, je vous l'accorde, ah tous, bon, elle n'est pas bien.
Un détail.
Une comédie musicale dont on n'aime pas la musique, il y a un petit problème quand même.
Oui, non, mais là, vous êtes cartésien, lutter avec des petites croix en musique, oui, non.
Les acteurs sont nuls, mais ça n'est pas grave.
Ah, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai.
Qu'il n'y a rien.
Quand
vous dites qu'il n'y a rien dans ce film, c'est pas vrai, c'est le même sujet que Margin Call, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer dans
Margin ce... Call oui. est un chef-d'œuvre à côté.
Oui, mais ça dit exactement la même chose.
Il n'y a pas de musique.
Le décor est magnifique. Merci. Le mec, il a vu. Alors moi, je suis pas un fan de Johnito, parce que Johnito m'embête beaucoup.
Tu le découvres
beaucoup.
Là c'est avec ce film que tu découvres.
Je ne découvre pas, mais en tout cas, il remonte nettement dans mon estime.
Ah bon?
Parce que il a vu Metropolis, il a vu les comédies musicales américaines, évidemment que tu cites, et il en tire avec des personnages qui sont pas plus bêtes ni plus nuls. Quand je pense que toute la critique française a déliré sur Lars von Trier et ses navets qu'on lui a donné une palme d'or pour une comédie musicale qui était alors là d'une nullité totale et qu'on fait la fine bouche devant ça.
Tu parles de Dancer in the Dark?
Je parle de Dancer in the Dark, absolument. Ah oui. Ah oui, c'est un navet absolu. Et alors là, on fait la fine bouche devant. Non, je sais bien, mais n'empêche que là, je vous trouve très sévère pour un film qui a un univers. Alors bon, la musique, mais toute la musique japonaise, asiatique, sud-coréenne.
C'est pas japonais, c'est mauvais. C'est à Hong Kong.
D'accord.
Non, mais il a rien compris pour lui, c'est pas
la Britannique. Il arrête de dénigrer ceux qui défendent ce film.
On va voir, c'est la culture britannique, c'est Hong Kong. Ils sont nourris de Hammerstein.
Mais très bien, mais j'entends quand même que les musiques de Kitano sont pas bonnes non plus.
On va voir les gorges chinois sur le dos maintenant.
Elles sont toutes mauvaises. Elles sont toutes mauvaises. Non, c'est un film qui est très original. C'est un film qui est très original.
Attends, après on va voir les Ukrainiens. Bon, Office de Johnito, pas de réaction, non. Une femme douce, tiens, voilà les Ukrainiens. Là, les Ukrainiens, qui étaient en compétition à Cannes, c'est le long film, 2h23, enfin long pour certains, pour d'autres c'était un court-métrage, de l'Ukrainien Sergueï Lonidza, à qui on doit des My Joy, qui était très bien, Dans la brume aussi. Et c'est très lointainement adapté d'une nouvelle de Dostoïevski. Je ne sais pas pourquoi on a ça au générique, alors qu'on est vraiment à milieu de la nouvelle. Ça. Bah oui, mais sauf que c'est...
Je n'ai pas remarqué.
Que Bresson, lui, avait porté à l'écran en 69. Ça. Une femme de campagne se voit retourner le gros colis qu'elle avait envoyé à son mari incarcéré en Sibérie pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle décide de se rendre jusqu'à la prison pour en savoir plus, un chemin de croix qui traverse une Russie que Lonidza voudrait à la fois kafkaïenne et félinienne, qui est peuplée de forbans, de fous, d'escrocs, de brutes épaisses, d'alcoolo XXL, et qui devient évidemment à la longue, 2h23, un peu un chemin de croix aussi pour le spectateur. Sauf pour certains, dont Pierre Murat. Je t'ai lu cette semaine dans Télérama qui parle du film d'un maître et même d'un visionnaire.
Ben oui, non, mais c'est le plus beau film qu'on ait vu là depuis le début de l'année. C'est un chef-d'œuvre. Alors là, j'hésite pas à employer ce terme qui est un peu galvaudé. C'est un film magnifique, à la fois par ce qu'il dit et la façon dont il le dit. C'est-à-dire que, en effet, il y a cette femme douce, qui n'est pas spécialement douce d'ailleurs, mais qui est surtout silencieuse, et qui regarde absolument ce qu'elle voit, en quelque sorte. Et elle va dans cette Russie qui est effondrée, et Loznitsa nous montre exactement, en effet, tu parlais de Kafka, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'elle va d'un train où tout le monde se souvient de la Russie d'avant, jusqu'à des guichets où on la repousse, jusqu'à une espèce de bureau où il y a les droits de l'homme, mais qui ne peuvent rien faire, et tout ça est montré avec une tendresse et une hystérie absolument russe, c'est-à-dire que par exemple la scène dans la chambre d'hôte, enfin dans celle où elle arrive, c'est Dostoïevski dans Crime et Châtiment, le repas funéraire, c'est-à-dire que les gens boivent, chantent, commencent à jouer au strip poker, et elle est là, elle regarde tout ça, et sa présence même est une résistance. Il y a une scène absolument magnifique où elle est plantée devant des flics, elle ne dit rien, elle est là, et les flics ne savent pas quoi faire. faire. Et les flics sont contraints de l'amener, etc. Jusqu'au moment, pour faire court, où il y a un changement de style, et ces plans-séquences absolument bouleversants deviennent une farce à la Fellini, en effet très dérangeante, mais qu'est-ce qui... Où la femme douce est contrainte d'écouter des gens soi-disant gentils, mais qui sont pas si gentils que ça, et que disent ces gens? Ils disent des choses absolument que disent tous les tyrans du monde, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est par amour que nous voulons tout savoir de vous, que nous fouillons vos âmes et vos corps. Et il y a un des présidents qui prétend guetter le jour où le peuple se réconciliera avec l'idée de prison. Moi, j'ai pas entendu dans un film récent un type qui ose dire ça avec une telle force et une telle maestria. Je trouve ça absolument sublime.
Éric.
Ah, c'est une chose dont on sort avec une terrible gueule de bois. Hein. Ah, oui. C'est saoulant.
Moi, je l'ai pas vu depuis le festival.
Moi
de
non
Cannes,
plus, hein, j'avoue. Donc... Il y a des limites.
Les mots de Pierre, évidemment.
C'est un film où il y a personne n'est là pour racheter l'autre, sauf l'actrice qui est vraiment magnifique, pratiquement muette avec ce regard qui assiste impuissante à toute une série de turpitudes, de corruption, de cuites terribles. Et à la fin, là, il y a cette scène là. C'est du Soufellini ou du Post-Kutsurissa.
Le banquet.
Ah c'est... Oui. Alors là, on se demande si ça fait office de verre de trop ou de cachet d'Alka-Seltzer, parce que c'est complètement raté, interminable, ces 20 minutes-là. Et le film donne l'impression d'être comme un torrent boueux qui roulerait assez lentement. C'est assez beau, c'est assez fort.
C'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est génial. Ouais. Tu défends le film d'une façon magnifique.
Trop de noirceur. Tue la noirceur là-dedans. Et il aurait fallu sûrement couper parce que...
Mais bien sûr, il y a trop de longueur. Tue la longueur.
On pourrait rebaptiser quand même le film « Les bourrés font du Dostoïevski ». C'est quand même un film où...
Les longueurs sont... Enfin, si tu coupes dans ce film, alors tu le réduis à rien.
Non, mais c'est un film quand même réalisé à coups de marteau. Et au bout d'un moment, ça fait un peu mal au crâne. Les deux films précédents de ce metteur en scène étaient très 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 bons, mais là il y a ça tourne au procédé à la complaisance, et à la fin il y a un plan où on voit tout un tas de gens endormis. J'ai l'impression que c'était un peu ça la Cannes quand on l'a vu.
Voilà, il n'a pas l'air content, Pierre. Michel.
Non, je suis accablé, triste.
Oui, d'abord, c'est un film qui montre que depuis Nicolas II jusqu'à Poutine, en passant par Staline, la Russie, c'est l'odyssée de l'humiliation. C'est-à-dire que toutes les époques sont les mêmes. Donc, du point de vue-là, le film.
Je te rappelle que c'est
original.
Vu par un Ukrainien. Hein.
Oui, un Biélorusse au départ, mais qui travaille en Ukraine. Voilà. Mais donc, au départ, il n'y a rien de vraiment très original, parce que ça, c'est vraiment la vision que l'on a et qui est sûrement en grande partie fondée d'une Russie avec des mafieux, des ivrognes, etc. Mais ce que je trouve, je suis d'accord avec Eric, c'est que à trop en faire, ça n'a plus d'effet. C'est-à-dire qu'il y a une telle répétition des mêmes scènes. Et où je suis pas d'accord avec Pierre, c'est quand il dit que c'est un personnage dostoïevskien. Non, les personnages dostoïevski, alors l'arrière-plan des romans de dostoïevski, c'est effectivement cette Russie-là, mais les êtres sont de chair et de sang. Ils ont une existence extraordinaire, ce que n'a pas du tout cette femme, qui est un visage impassible. Elle traverse tout ça, mais c'est la même monotonie dans l'impassibilité de cette femme douce que l'on trouve dans la même monotonie dans les événements dont elle est le témoin. Et quant à la scène, effectivement, c'est là où le film capote, parce que pendant deux tiers, on le suit, parce que c'est tout de même un cinéaste qui s'est filmé, incontestablement. C'est un très immense documentariste, un des plus grands documentaristes d'aujourd'hui, qui ne réussit jamais vraiment le passage à la fiction. Et cette fois-ci, je trouve que dans ce film, là, il échoue complètement. En particulier, toute la dernière partie du film est insupportable. Cette orgie fellinienne avec tous les personnages qui réapparaissent dans d'autres masques, je trouve ça insupportablement raté.
Xavier.
Oui, je suis malheureusement un tout petit peu d'accord. Je suis en revanche du côté de Pierre pour la première partie que je trouve absolument magistral. Je suis désolé, en termes de mise en scène, en termes de travail sur le son, en termes de répétition, il y a à côté de Saviatine, il y a à côté de Boulka.
Et de grammaire.
Il y a aussi. Et maintenant, mais il y a une vraie grammaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'elle n'arrive jamais à se sortir de toutes les épreuves qu'elle traverse, qu'elle soit dans une gare, dans le hall d'une gare ou à l'entrée d'une prison. Il y a un côté comme ça, claquemurant, anxiogène, angoissant, qui fonctionne extrêmement bien grâce à la mise en scène. Je suis ravi de découvrir ce soir que Michel Simon minore l'effet de la mise en scène sur l'histoire du cinéma. cinéma. Mais comme quoi, non, mais
la somme d'un certain nombre de choses. La mise en scène, c'est pas déposé comme au pavillon, comme on déposerait la mise en scène. La mise en scène n'existe que si c'est la conjonction d'un scénario. Film qui a un scénario, c'est déjà la mise en scène.
Oui, il y a une caméra, il y a une acuité, il y a une façon de filmer.
Tu n'as pas la mise en scène chimiquement
pure. Non, c'est pas vrai. C'est pas complètement vrai.
Non, pure n'existe pas.
Ça, je suis désolé. Il y a une façon de filmer, il y a une façon de créer une ambiance, il y a une façon de filmer ses personnages. Et là, je trouve que, en tout cas, sur la toute première partie, qui n'est jamais réaliste, mais qui est extrêmement intéressante sur la Russie contemporaine, parce qu'effectivement, il y a les droits de l'homme dans ce bureau. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, à quelle époque on est dans le film. On commence à le deviner, justement, avec le bureau des droits de l'homme. Il y a même des drapeaux gays derrière. Donc, on sent qu'il y a un début de lutte, en tout cas, pour la reconnaissance de certaines différences. Hélas, la dernière partie, je la trouve totalement ratée. Elle n'est pas dérangeante, elle est redondante. C'est-à-dire, tous les personnages qu'on a vus viennent s'expliquer. On avait déjà compris lourdement ce qu'il en était. Et hélas,
elle est même un peu ridicule.
Il joue pas le même rôle.
Et puis, on oublie quand même la scène de viol que vous minorez tous et qui est quand même extrêmement complaisante, extrêmement dérangeante.
Chez German, il y en a pareil dans Khrustalyov, ma voiture. Elle est filmée pareil. Et d'ailleurs, German est une référence, peut-être pas pour nous cinéphiles français, mais c'est 20 jours sans guerre, c'est exactement ce film-là.
Oui, mais il y a un problème de contexte.
Russe de la compétition, Faute d'amour de Zviagintsev, c'est une leçon de mise en scène.
Une femme douce, Sergueï Lonidza, pas de réaction sur ce film. On va aller très vite. Malheureusement, j'avais inscrit un film de l'Autrichien Dieter Berner. Là, on peut se mettre les Autrichiens à dos si vous voulez. C'est Egon Schiele qui raconte pendant 1h50 la vie brève de Egon Schiele, le peintre, terrassé en 18 par la grippe espagnole. Il avait 28 ans. Et là, c'est Noah Saavedra dans le rôle-titre. Un film, pour le coup, plutôt bien léché. Je parle de l'image, mais d'une telle sagesse pour raconter la vie d'un peintre qui était ultra provocant et dont les tableaux ont fait scandale. C'est un peu bizarre. Film très académique. Eric,
ah oui, en quelques mots. C'est exactement ça. C'est un conventionnel, d'un raplapla.
Mais l'image est propre. Enfin,
ça manque de souffle, ça manque de sensualité, l'acteur n'est pas terrible, les scènes avec les modèles sont plutôt ratées, et puis cet artiste maudit qui crie tout le temps « je suis un artiste », on nous en fait un genre de David Hamilton austro-hongrois.
Oh non.
C'est un peu ça.
Mais non, parce qu'il a été accusé d'avoir une relation avec une mineure, c'est au début du film. Oui. Accusation qui était...
Oui, il a été acquitté de ça, il a été condamné pour obscénité ou autre chose comme
ça. C'est pas Hamilton autrichien.
C'est comme les collections de tout l'univers ou les histoires de l'oncle Paul. Là, heureusement, d'ailleurs, il est mort à 28 ans. Le film est court, du coup... Et vive la grippe espagnole.
C'est 1h50 hein, quand même le film. Ah, oui. Pierre, quelques mots.
C'est une catastrophe pour moi parce qu'alors vraiment, alors là il n'y a pas de mise en scène, pardon Michel, mais il n'y a pas de mise en scène. Et puis c'est prendre un artiste comme ça qui était quand même corrosif et en faire une sorte de type comme ça. Même le procès, ça pourrait être beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus.
Ça arrive, cela dit entre parenthèses, à beaucoup de films consacrés à des peintres qui étaient tous.
Oui.
Et là depuis quelques mois, on voit une succession de films.
Alors c'est sur les aventures, bon, c'est très bien. Alors la sœur est jalouse du premier modèle, le premier modèle est jaloux du deuxième modèle. Ça n'a aucun intérêt, c'est nul.
Michel ?
Oui, c'est-à-dire à aucun moment le film ne suggère même pourquoi c'est un immense peintre. À aucun moment, c'est un peintre subversif. Alors même les scènes avec Klimt aussi sont absolument sans aucun intérêt. Une sorte de coureur de jupons, très antipathique finalement. Qui collectionne les femmes, qui les traite avec une sorte de mépris absolu.
La seule qu'il épouse, elle refusait de poser nue pour lui.
Et je trouve que les comédiennes, par contre, sont très bonnes. Moi, je trouvais que tous les personnages féminins sont très bien joués, mais le film, effectivement, est académique. Et, par exemple, on a vu récemment un très beau film, un très beau biopic de Paula Modelson-Becker, la femme peintre expressionniste qui a eu une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui était 10 fois plus intéressant. Là, c'est un film complètement raté, et on regrette le clip de Raoul Ruiz, évidemment.
Xavier.
Alors, je ne sais pas si c'est une vérité historique et je ne sais pas si ça a une conséquence quelconque sur le film, mais l'acteur a un très joli cul. Et comme on nous le montre tout le temps...
Saavedra, il a...
Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous le montre assez régulièrement.
Moi, je me souviens de celui des femmes, mais...
Eh ben, il fallait tout regarder, il fallait pas être sélectif. Moi, je n'ai pas eu de distinction, et il a des très jolies fesses qu'on voit tout le temps. Ça ne raconte rien, évidemment, mais il fallait bien...
C'est pour ça que tu l'as aimé, le film ?
Mais pas du tout, j'aime pas ça du tout. Mais pendant 2 heures, il faut bien regarder quand même quelque chose. C'est tellement ennuyeux, c'est tellement académique, c'est tellement creux, c'est tellement
vide. Tu vois pas le cul de Gonchil pendant 1h50, là.
Ah, tu le vois quand même assez régulièrement.
Tu vas envoyer des gens qui vont être déçus.
Non, on le voit quand même. Moi, je me suis même demandé... avec quel pinceau il peignait, tu vois, tellement on le voit. Je veux dire qu'on le voit régulièrement.
Xavier.
Mais c'est vous dire qu'il y a vraiment...
Tes parents sont là ou pas ce soir, ouais.
Non, mes parents sont pas là, c'est pour ça que je me lâche.
Il faudra trouver quelqu'un pour le ramener après. Egon Schiele, Dieter Berner. J'ai inscrit aussi Les Lumières d'été, premier film d'un documentariste français, Jean-Gabriel Perriot, qui se passe entièrement au Japon, et un film qui s'ouvre par une longue interview qui dure au moins un quart d'heure, 20 minutes, face caméra d'une vieille femme rescapée de l'explosion atomique d'Hiroshima. Et celui qui l'interroge, c'est un réalisateur japonais qui vit à Paris et qui est revenu dans son pays natal pour faire parler les survivants, les rares survivants de la tragédie. Et commence après une sorte de fable, un peu à la Saint-Exupéry nippon, au fil de son enquête. Et donc, ce réalisateur fait la rencontre d'une jeune femme fantomatique qui l'entraîne dans un voyage au bord de la mer, où ils vont rencontrer un vieil homme et son petit-fils. Bon, bref, c'est touchant, je trouve. Parfois, les dialogues sont un peu sentencieux. Il y a ce début que je trouve, malgré tout, pour moi, le grand moment du film, c'est ce témoignage qui est
joué par une actrice. Oui,
qui n'est pas une vraie rescapée. C'est une actrice qui joue la rescapée. Michel.
Oui, moi j'étais déçu parce qu'il y a eu une presse presque dithyrambique sur ce film. Il avait fait un très bon film de montage d'archives qui s'appelait Une jeunesse allemande sur la bande à Baader. Et là, le passage à la fiction, alors je crois que ça plaît pas mal à la presse parce que c'est très familier en fait. C'est du Romer. C'est les rendez-vous de Hiroshima ou bien Hiroshima vu par. C'est d'ailleurs qu'une sorte de longue promenade qui se termine, comme tu l'as dit, avec un vieil homme, etc., entre une jeune femme qu'il rencontre dans un parc, et il parle comme deux personnages de Romer. Donc on est très à l'intérieur d'un film très français. C'est un côté... Mais à ce moment-là, je préfère Aung San Suu 10 fois dans Le Jour d'après, parce que là, on a une sophistication réelle. Là, le film est un peu languissant. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, c'est pas un mauvais film, mais tout de même un peu répétitif.
Film court, d'ailleurs, c'est 1h20. Hein.
Oui, il fait 1h20, mais c'est même presque trop long. Le film est sympathique, il y a une certaine sensibilité, mais ça ne va pas plus loin.
Xavier.
Oui, je ne vais pas en rajouter, je suis entièrement d'accord avec Michel. Le problème du film, c'est qu'il commence vraiment par ce qu'il y a de plus fort, ce témoignage, cette mise en mots de l'horreur absolue, l'indicible, qui est effectivement à travers une comédienne qui raconte. Après, le film a énormément de charme, mais cherche toujours justement à être charmant, à être polissé, à être solaire, là où il y a quand même quelque chose de beaucoup plus tragique sur le mémoriel et sur le drame.
C'est un peu ostentatoire.
Voilà, elle est un petit peu, je suis entièrement d'accord avec toi, elle veut se mettre en avant. Puis le problème, c'est qu'il ménage un suspense qui s'évente au bout de 30 secondes. Je suis très surpris de cette scène où le héros fait semblant de découvrir qui est cette jeune femme qu'il a alpaguée dans le parc d'Hiroshima, alors qu'on aurait peut-être immédiatement pris le personnage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fantôme, on aurait peut-être pu se libérer justement de ce carcan-là et raconter autre chose.
Il l'a dit.
C'est marqué partout.
Je suis un peu à l'antithèse de vous, c'est les 20 premières minutes que je trouve interminables et assommantes. J'ai failli partir.
Ah non, elles sont bouleversantes.
Mais dans un film de fiction qui dure 1h20, tu ne peux pas avoir 20 minutes d'interview d'un survivant. Et après, je trouve ça assez charmant, c'est le terme, un joli petit film, pas prétentieux, avec un petit peu japonais, un peu à la Naruse ou au Zoo par certains côtés. Oui, je suis généreux, mais c'est un premier film et on s'attendait tellement à pire.
Il y a vraiment premier
film de fiction, oui. Et l'étudiante est tout à fait charmante et c'est un petit film attachant et léger.
Pierre,
je suis assez déçu comme Michel parce que vraiment Une jeunesse allemande, je trouvais ça vraiment très très fort ce qu'il avait fait. Bon, là, il passe à la fiction. Et en effet, après les 20 premières minutes qui sont tout à fait bouleversantes, eh ben, comme on a compris au bout de 30 secondes exactement qui est cette jeune femme, eh ben, c'est un peu mièvre quand même.
Lumière d'été, Jean-Gabriel Perriot, et une poignée vraiment de secondes même pour parler de La Tour sombre, qui est ce western de SF que je n'ai pas vu, réalisé par Nicolas Arcel, d'après Stephen King. avec Matthew McConaughey. Xavier ?
Aucun intérêt. Alors ça, je dois avouer. Et quand j'ai découvert, ça dure 1h34, il ne se passe strictement rien. J'ai jamais vu autant, aussi peu ou plutôt, de suspense à l'intérieur du film. Non, les résolutions sont immédiates, ça se passe sans aucun problème. Il a du mal à tirer, puis à la dernière seconde, il se souvient de la phrase de son père, donc il loge une balle dans la tête du méchant sans aucun problème. C'est absolument, mais pathétique, de simplicité, de simplification. Et quand j'ai découvert qu'à l'intérieur de ce scénario d'1h34, il y avait 3 livres de Stephen King. Non, il y a 8 livres pour La Terre Sombre, mais ce scénario couvre les 3 premiers. Ça donne pas du tout envie de lire les livres de Stephen King, qui sont des livres de jeunesse, parce que si en 3 volumes, il ne raconte que ça, c'est pas passionnant.
Michel ?
Alors moi, peut-être parce que je suis fatigué de la quantité industrielle de films qui annoncent au générique tirés d'une histoire vraie. J'étais heureux de trouver de la fiction et de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est du Stephen King,
c'est nourri du
Seigneur des Anneaux, c'est nourri d'Excalibur, de toutes les histoires mythologiques. Et je trouve que le film, c'est évidemment le personnage de McConaughey est un méchant, mais comme on n'en fait pas autant, et plus méchant est le méchant, meilleur est le film, comme le disait Hitchcock. Et là, c'est un personnage tellement effectivement maléfique que j'ai pris un certain plaisir à regarder ce film. Je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, ni un chef-d'œuvre, mais j'ai été assez diverti. Et le fait qu'il dure 1h37 pour un blockbuster américain, je trouve ça
pas mal. Tu ne m'as pas totalement convaincu d'y aller. Eric n'a pas vu, non. Pierre ?
Je suis d'accord avec Michel. Moi, je suis néophyte en Stephen King, donc je n'ai pas lu les 8 bouquins. J'y arrivais comme ça, et j'ai vu un film d'aventure, avec un adolescent qui est intéressant, je trouve.
C'est un enfant Shining.
Oui, absolument. Et le Matthew McConaughey, que j'aime pas du tout, généralement depuis quelque temps, parce qu'il cabotine. Là, je le trouve impeccable en fantôme de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur, comme ça. Les effets spéciaux sont... Oui, c'est une espèce de...
J'ai pas vu.
Non, il a une silhouette noire, comme ça, c'est le méchant.
Vous avez fumé un truc avant d'y aller ou...
Non, pas du tout.
Et le metteur en scène, en plus...
Parce qu'il y a une mise en scène, en plus, dans ce film.
Nicolas Hansen avait fait un superbe film.
Qui
s'appelait A Royal Affair, un film en costume qui était magnifique, qu'il a tourné au Danemark.
Les effets spéciaux qui sont pénibles généralement, il y en a, mais. Et moi j'ai passé un très 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 bon moment.
Mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense, rien.
Pour les fans, il y a des petites choses. On peut retrouver la photo de l'hôtel de Shining, on peut voter la petite voiture rouge de Christine, comme ça ils sèment des signes de piste pour les fans de.
La Tour Sombre, c'est Nicolas Harcel. Allez, un conseil pour finir, Xavier.
Alors moi, je vais vous recommander un premier film que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Vie de Château, Maudit Barry et Cédric Ido. Alors c'est l'histoire, moi j'avais jamais vu ça nulle part au cinéma, ce sont des rabatteurs qui, à la sortie de la station Château d'Eau sur la ligne 4, juste avant la gare de l'Est, rabattent les clientes pour les emmener dans les salons de coiffure africains qui sont juste avoisinants. Et il y a une guerre entre les rabatteurs, il y en a qui sont flamboyants, il y en a qui sont plus manipulateurs. C'est un film vraiment circonscrit dans un tout petit quartier, donc du 10e arrondissement, et qui fonctionne terriblement bien parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a une façon de regarder les personnages. C'est un film féministe sur la fin, alors qu'on l'avait pas vu venir parce que les personnages principaux sont masculins. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui a une simplicité, qui a une légèreté et qui vraiment s'ancre dans une réalité, j'allais dire sociologique et géographique. Franchement, c'est une bonne surprise.
Michel.
Alors moi, pour me réconcilier avec Sergueï Losnitsa, je voudrais recommander 2 petits événements. D'abord, chez Potemkin, l'éditeur de DVD, 3 DVD avec un choix formidable de ses courts-métrages documentaires et de ses longs-métrages qui s'appellent Revue et The Event. Donc ça, c'est vraiment des films à voir, dont en particulier, alors malheureusement, il n'y a pas celui-là, mais on avait vu à Venise l'an dernier, Austerlitz, qui était un reportage dans les camps de concentration nazis, envahi par les touristes aujourd'hui. Et c'était glaçant, la façon dont c'était devenu des lieux de tourisme. Et puis, également, un numéro spécial d'une très bonne revue qui s'appelle Images documentaires, qui est consacré entièrement à Sergueï Losnitsa, documentariste.
Mon conseil, c'est pour vous quatre, c'est un roman de cette rentrée littéraire qui devrait vous passionner, qui s'appelle « Les vacances » de Julie Wolgenstein chez POL, où on voit une prof d'université et un jeune chercheur arpenter la Normandie, en passant par l'IMEC, évidemment à Caen, pour percer l'énigme, Michel, du premier film disparu de la nouvelle vague, qui est l'adaptation en 52 par Éric Rohmer des Petites filles modèles de la comtesse de Ségur, un film qui était alors produit, Michel, par un étudiant béninois et dont trois des comédiennes ont ensuite mis fin à leur jour. Et ce film, donc, il n'existe plus. Il n'y a plus de traces. Et donc, ils enquêtent et ça se termine à Jullouville où Romer a tourné Pauline à la plage. Donc voilà, c'est pour vous, ça s'appelle Les Vacances, c'est formidablement drôle en plus, et érudit, et c'est Julie Wolkenstein chez POL, le conseil d'Éric.
Un polar espagnol qui s'appelle Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen.
Qu'on a conseillé au match qu'il y a.
Je le reconseille à nouveau parce que c'est la pointe. Très bon polar, bien glauque, pervers, tordu, et qui
tout ce que tu aimes.
Oui, non, mais c'est l'année du cinéma espagnol. L'année dernière, c'était les Roumains. Cette année, il y a eu trois films espagnols que je trouve vraiment épatants.
Pierre, pour finir.
Mercredi prochain, il y a la reprise, la réédition en salle d'un premier film de Francesco Rosi qui s'appelle I Magliari, qui est très bien. C'est l'histoire d'Italiens qui émigrent en Allemagne dans la fin des années 50 et qui essaient de se livrer à des trafics. Et c'est tout à fait passionnant.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Xavier Le Herpeur, Michel Simon, Pierre Murat, Éric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet à la technique, Éric Boisset, Stéphane Boffi, Celie de Wincaron et Diana Alcide. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 31 août à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour une émission consacrée au cinéma. On parlera dans une semaine de la rentrée littéraire et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.